Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Chaque jour sur Europe 1, à partir de 13h, Franck Ferrand nous fait partager sa passion pour l'histoire. Et aujourd'hui, il a l'air encore plus passionné que d'habitude.
Ah
bonjour
oui,
Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le personnage dont nous allons parler aujourd'hui est le grand témoin d'un monde qui m'est familier, vous le savez, la cour de Versailles. Alors pendant plus de 20 ans, de 1694 à la mort du roi en 1715, cet observateur très aigu de la cour note dans ses cahiers des centaines de cahiers, enfin des dizaines disons, les moindres palpitations du plus brillant des paniers de crabes. Et puis il va continuer du reste à prendre des notes après la mort du roi. Il écrira tout ce qui est arrivé jusqu'en 1723, date de son retrait définitif. Et dès lors, pendant 30 ans, vous imaginez, pendant 30 ans, entre son hôtel parisien et son château Percheron de la Ferté-Vidame, le duc de Saint-Simon, car c'est bien sûr de lui qu'il s'agit, va noircir les quelques 12 000 pages de ses célèbres mémoires. Une sorte de recherche du temps perdu avant l'heure où il va ressusciter avec verve et mauvaise foi les 7854 comédiens d'un théâtre immortel.
Et vous avez invité sur Europe 1 un biographe de Saint-Simon.
Jean-Michel Delaconté, qui est l'auteur très inspiré d'un essai biographique intitulé La Grandeur, évocation brillante de Saint-Simon dans la collection L'un et l'autre. Vous savez, cette merveilleuse collection chez Gallimard, ce sont des biographies qui n'en sont pas, en quelque sorte. Ce petit livre a reçu le prix Historia de la biographie, et puisque nous évoquons toute la semaine les prix Historia, vous pensez bien que je n'allais pas manquer une telle occasion.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le sujet est si vaste, si fourmillant, il ressemble tellement à un gigantesque dédale d'encre et de papier. Je me suis demandé assez longtemps comment j'allais vous présenter aujourd'hui cette œuvre, ce chef-d'œuvre, cet univers, disons-le, qui a littéralement abreuvé mon adolescence, les fameux, les copieux mémoires de Monsieur de Saint-Simon. Fallait-il vous raconter la vie du petit duc ? On l'appelle ainsi parce qu'il n'était pas grand, en dépit de la hauteur de ses talons rouges. Vous savez qu'à Versailles, on portait les talons rouges. Est-ce qu'il fallait vous parler de son père, déjà âgé à sa naissance, de sa jeune mère, de son éducation stricte et très religieuse, de son mariage d'amour sans un nuage, c'est une union, on va en parler quand même tout à l'heure, de ses débuts dans les armes, de son installation à la cour, de toutes ses combinaisons politiques et de ses espoirs souvent déçus, de sa carrière belle mais tardive sous la Régence? Je me suis dit que tout cela, Jean-Michel Delaconté le ferait mieux que moi dans un court instant. Fallait-il se concentrer sur ce qui aura été l'obsession de Saint-Simon durant ses 80 années d'existence, la grandeur, le rang, le titre, la position, le suivre dans ses ratiocinations infinies et du reste sans doute pathologiques sur les prétentions de tel prince étranger à marcher sur l'éduqué père, sur l'ancienneté factice de telle famille, sur les prétentions indues de telle autre et les injustices d'honneur infligées encore à une troisième. Je ne suis pas certain que ce qui pour un obsessionnel comme Saint-Simon représentait le suc même de la vie soit de nature à captiver trois siècles plus tard la majorité des auditeurs d'Europe 1. Alors, ce qui s'est imposé lorsque, en prenant volontairement un peu de recul, j'ai envisagé cette vie, cette œuvre, cet univers dans sa globalité, ce qui m'a sauté à la figure, disons-le, c'est le style de Saint-Simon. Le style de Saint-Simon, on pourrait même dire si longtemps considéré comme un style impropre et lourd, et qui aujourd'hui nous apparaît dans toute sa somptueuse inventivité comme une des plus magnifiques créations du grand siècle, parfaite dans sa somme de petites imperfections. Quelques exemples, mais bien sûr, ouvrez les mémoires du petit duc à n'importe quelle page, les tournures, les expressions, les trouvailles vont vous ravir. Chateaubriand disait de Saint-Simon qu'il écrivait « à la diable pour l'éternité ». Par exemple, à propos d'un cardinal, il écrit « il passionna les honneurs, il goûta seulement les plus grands comme pour s'y attacher davantage. Ce qu'ils avaient pour lui de plus flatteur lui fut montré et porté pour ainsi dire jusqu'à ses lèvres. La coupe lui en fut subitement retirée sans qu'il pût y toucher au moment d'y mettre la bouche et d'en boire à longs traits. La grande spécialité du duc, c'était, comme nous dirions aujourd'hui, d'habiller les gens pour l'hiver. Bernadette de Castelbajac, qui s'est fait une spécialité des mots méchants de l'histoire, a répertorié quelques vacheries de cour. Et là, je vous prie de croire que chacun en prend pour son grade. Madame de Lavallière, par exemple, une estime et une considération sèche, dit-elle, pour parler de la façon dont Louis XIV la regardait. Et quand Madame de Montespan est abandonnée après l'affaire des poisons, elle promène son loisir et partout ses inquiétudes. Madame de Maintenon, dont le règne ne fut qu'un perpétuel manège. Mademoiselle de Nantes, qui n'avait point de cœur, mais un gésier. Le duc du Maine, semblable au démon en marche profonde, en orgueil le plus superbe, en faussetés exquises. La princesse d'Harcourt, dont les grâces et la beauté s'étaient tournées en gratte-cul. Le chevalier de Lorraine, avec monsieur Encroup, comprenne qui pourra. Fénelon et la mystique madame Guyon, il la vit, leur esprit se plut l'un à l'autre et leur sublime s'amalgama. Quant au duc de Villeroy, maréchal de Villeroy, qui allait devenir le gouverneur de Louis XV, il pompait l'air autour de lui. Et quand il s'était mis en colère, à force de réponse, il s'empêtra dans le musical de ses phrases. Le cardinal de Polignac, ses grâces, ses charmes et son bien-dire si odoriférant et si flatteur, quant au fils du ministre Pontchartrain, que la petite Vérole avait éborgné et la fortune aveuglée. L'ambitieux président de même était, selon Saint-Simon, bien éveillé, bien averti. Il avait tourné vers cette première charge de la robe une gueule béante. Eh bien voilà, c'est cela, Saint-Simon.
Et avant votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec votre invité sur Europe 1, Jean-Michel Delacontet, qui est écrivain et auteur notamment de La Grandeur Saint-Simon chez Gallimard. Je rappelle que ce livre a reçu le prix Historia de la biographie. D'ailleurs, c'est le moment, si vous avez des questions à nous poser, de les envoyer sur le site europe1.fr ou bien sur la page Facebook d'Au cœur de l'Histoire.
Peu s'en était fallu, écrit Jean-Michel Delacontet, peu s'en était fallu qu'un abcès à l'orée de l'âge mûr ne l'eût empêché d'écrire ses mémoires. Si maréchal, donc un chirurgien en l'occurrence, vrai ange gardien, ce praticien savant, humain, loyal et droit, ne s'était précipité de Versailles un matin pour lui ouvrir sur toute la longueur le bras progressivement enflé à la suite d'une saignée ratée pour devenir gros comme une cuisse. Sans maréchal, il ne resterait du petit duc qu'un nom parmi tant d'autres, une étoile minuscule et en vérité oubliable dans la constellation de la cour de France, au mieux l'objet d'une monographie, au pire un croquis tracé d'une pointe pareille à la sienne, teigneuse à souhait et ne méritant pas davantage malgré l'étendue de ses talents. Bonjour Jean-Michel Delacontet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Finalement, ce monument des mémoires de Saint-Simon a bien failli ne jamais être écrit, parce qu'il a été écrit tard en vérité.
Et alors, on a pu lui couper l'oreille éventuellement, et puis surtout lui couper le nerf. À la suite de cette saignée ratée, il était encore jeune homme. Et ce qui est important de dire, c'est que Maréchal, le chirurgien que vous citez, était également le chirurgien de Louis XIV. Et donc Saint-Simon manifeste une petite ingratitude quand même vis-à-vis du roi, parce que Louis XIV a donné l'autorisation à Maréchal de se rendre de Versailles à Paris où habitait Saint-Simon, et Louis XIV lui a donné l'autorisation.
Il faut dire que cette autorisation était presque toujours donnée, hein, c'était presque automatique, mais enfin, c'est
quand
vrai.
Même. Oui. Et il se trouve que Maréchal était également un ami du père de Saint-Simon, et grâce à Maréchal, ultérieurement, Saint-Simon a pu approcher Louis XIV et obtenir une audience, parce que c'était pas si simple. Parce que si Louis XIV se fait plus qu'égratigner par Saint-Simon, il n'empêche qu'il lui a quand même accordé une audience, sans voir très bien pourquoi d'ailleurs. Enfin, il lui a accordé cette audience.
Alors vous dites, il se fait déchirer par Saint-Simon. Oui, ça c'est incontestable. Les notations les plus acerbes, souvent grosses d'une rancune longtemps retenue, sont innombrables dans les mémoires de Saint-Simon. Et en même temps, on a l'impression que ces mémoires-là ne tiennent que tant que le roi est vivant. C'est très frappant quand on lit les mémoires de Saint-Simon. Alors généralement, on ne les lit pas dans la continuité. On va en piocher quelques extraits ici et là. Il faut dire que pour quelques merveilleuses pages d'une littérature très accomplie, il y a aussi de très longues pages fastidieuses sur des histoires de généalogie et de privilèges entre les grands personnages de la cour qui ne sont pas très passionnants. Mais tous ces mémoires, tout cet énorme édifice ne tient que tant que Louis XIV est en vie. Et puis après la mort du roi, bien sûr Saint-Simon continue à écrire, mais ça devient beaucoup moins fort, beaucoup moins... On a l'impression que même s'il n'aimait pas ce roi et s'il lui en voulait beaucoup à titre personnel et d'une façon plus générale pour ce qu'il avait, à son avis, fait subir à la noblesse française, en même temps, il y avait une fascination. Il n'était pas le seul, hein, du reste.
Non, il n'était pas le seul. Je crois qu'on peut dire que la grandeur du roi infuse dans la grandeur même de l'œuvre de Saint-Simon, que si Louis XIV n'avait pas été grand, Saint-Simon aurait été petit, peut-être inexistant d'ailleurs. Et donc il y a une sorte de mise en miroir entre le règne, la grandeur de l'un et la grandeur de l'œuvre de l'autre. Et il faut bien se dire, à cet égard, que lire Saint-Simon, c'est en version littéraire le règne de Louis XIV.
Alors comment ont été écrits ces mémoires? Pourquoi si tard, etc. C'est ce que nous voyons avec vous, Jean-Michel de la Comté, dans un instant.
En attendant votre récit sur Europe 1, nous sommes toujours en compagnie de l'écrivain Jean-Michel de la Comté et nous parlons aujourd'hui du duc de Saint-Simon.
Saint-Simon, l'auteur des très célèbres mémoires, évidemment. Alors on en parle beaucoup des mémoires de Saint-Simon, mais on les lit peu. On en cite quasiment toujours les mêmes passages et c'est dommage parce que Dieu sait que cette œuvre est foisonnante de trouvailles et de choses incroyables. Il a inventé un style, disons-le, Jean-Michel de la Comté.
Oui, je crois qu'on peut dire ça. Il a un style qui est une caractéristique à mes yeux, en tout cas. C'est que c'est une langue qui n'est d'aucune époque.
C'est ça.
Sa langue est aussi bien, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais elle est aussi bien du Moyen-Âge.
Elle est archaïque par certains
elle
moments.
Elle est archaïque complètement.
Et ultra-moderne.
Ultra-moderne. Elle est d'aujourd'hui et d'hier, du Moyen-Âge et du 22e siècle, si j'ose dire. Hein, et elle est pleine d'inventivité, d'incorrections. Mais ce sont des incorrections qui donnent une vie extraordinaire à ce texte, incomparable.
Il transitive les verbes, il crée des adjectifs qui n'existent pas. Enfin, il invente une langue à lui, en fait.
Vous savez, je crois que... peut-être que c'est ça d'ailleurs être un véritable écrivain dont Saint-Simon est l'incarnation même en quelque sorte, c'est-à-dire que l'univers qu'il crée, ce ne sont pas seulement les faits qu'il rapporte, mais c'est bien évidemment la manière de le faire.
Il y a un autre personnage, j'ai évoqué ça très très rapidement tout à l'heure, il y a un autre personnage qui a eu un peu le même type de parcours, c'est-à-dire un long passage dans le monde, un passage d'observation avec des prises de notes incessantes, et puis ensuite un retrait total du monde et une longue période d'écriture, enfin de maturation d'abord puis d'écriture, c'est Proust bien entendu. Proust est un peu le Saint-Simon du XXe siècle.
Je partage tout à fait votre sentiment, au point même qu'on peut dire que Proust n'aurait peut-être jamais existé comme écrivain, bien sûr, sans Saint-Simon, qu'il lisait de façon très régulière, dont il est empli en quelque sorte. Et vous avez tout à fait raison de souligner les points communs entre Saint-Simon et Proust. Saint-Simon, en fait, quoi, c'est quoi sa vie? Enfin, sa vie en tant qu'elle-même.
Oui, c'est ça.
C'est
oui.
Pas grand-chose. Hein.
Ben non.
Jusqu'à 20 ans, bon, il est plus ou moins, enfin, il est militaire.
Il est né en 1675, il faut
oui,
dire.
C'est ça. Jusqu'à 20 ans, donc à peu près en 1695, il était à l'armée. C'est un assez piètre
militaire.
Il faut se souvenir que Saint-Simon, s'il faisait 1m52, à mon avis, c'est bien
ça,
le maximum.
Voilà, hein. Il était tout petit.
Il était vraiment tout petit. Et ses fils étaient encore plus petits. Hein, c'était des tout petits bonshommes. Bien. Et sa femme n'était pas beaucoup plus grande d'air. Ce qui ne les a pas empêchés de vivre un amour merveilleux.
Ah oui, fabuleux. Hein. On va en parler tout à l'heure de toute cette vie. Oui,
très
bien,
parce que c'est très beau.
Bien sûr.
Très émouvant. Et puis donc ensuite, il va à la cour. À partir de 1695 jusqu'à...
tombe dans le grand chaudron versaillais.
Voilà, jusqu'à 1723 à peu près, tout en ayant de façon très régulière des voyages à son château de la Ferté-Vidame, hein, dans le Perche, je vous l'avais dit. Et puis ensuite, que se passe-t-il? Il se retire jusqu'en gros en 1740, sans rien publier. Il n'a rien publié.
Mais qu'est-ce qu'il fait pendant ces 20 années entre 1720 et 1740? Il faut, pour préciser, il s'en va à la fin du régime de la Régence et pendant tout le début du règne de Louis XV, pendant le ministère Fleury, hein, et d'ailleurs il a des rapports assez intéressants avec le cardinal
absolument.
De Fleury, il ne fait rien de spécial. Alors il prépare les fameux mémoires sans doute quand même. Enfin moi c'est ce que j'imagine.
C'est une vraie question. C'est une des choses que je trouve fascinante chez Saint-Simon. Il commence à écrire ses mémoires à 65 ans.
Mais c'est ça.
Et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à 65 ans? Ça mûrit, ça rumine, ça germe. Vous voyez? Il fait des notes quand même très érudites sur les généalogies aristocratiques. Il connaît tout ça admirablement bien. Il pense nécessairement à ses mémoires. En se posant, selon moi, la question de savoir s'il va vraiment les écrire. Et à 65 ans, pendant 10 ans, quasiment jour pour jour.
Alors là, ça n'arrête plus.
Ça n'arrête plus, sauf 6 mois d'interruption à la mort de son épouse. Et puis ensuite, à la fin de l'écriture de ses mémoires,
en 1750, là.
Oui, c'est ça, exactement. Il a perdu ses 2 fils entre-temps. Il est tout seul. Entre la Ferté-Vidame et Paris, pas très loin d'ici, enfin rue Saint-Dominique, hein, boulevard Saint-Germain d'aujourd'hui, il vit là et...
Au 218 boulevard Saint-Germain,
voilà, exactement.
Précisément.
Et, je sais pas, il va doucement vers la mort. Il n'écrit plus rien, sauf un texte d'eux, mais plus rien du tout. C'est extraordinaire, ça, quand même.
Du château de la Ferté-Vidame, écrivez-vous, qui faisait ses délices, ne reste qu'une carcasse aujourd'hui. C'est une façade de dimension impressionnante, avec à la place des fenêtres, des trous comme des orbites d'un crâne, au milieu d'un grand parc d'herbes désordonnées que prolonge un bassin où flottent les reflets verdâtres des nuages. Oui. On est dans le Perche, on est dans un endroit qui est presque de fin du monde.
Oui. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs la ville de la Ferté-Vidame d'être une très très jolie ville, mais enfin, à l'époque, il faut dire quand même quelque chose d'important pour comprendre.
Le château a brûlé, pour expliquer.
Oui, c'est ça, il a brûlé, il a été largement dévasté au moment de la Révolution. Lui était mort depuis un certain temps, Saint-Simon. Et le château n'a jamais été reconstruit. Donc il reste...
C'est comme un décor de théâtre,
oui,
comme
exactement
ça, dans la nature.
Oui. C'est ça. Très impressionnant, parce que la façade est très très longue, très large. C'est très impressionnant,
en
avec
revanche,
un très beau parc.
Ces appartements à Paris existent toujours,
oui.
Ils sont occupés par des particuliers aujourd'hui, que j'ai la chance de bien connaître et que je salue d'ailleurs, et ils sont restés vraiment dans l'esprit de Saint-Simon, c'est tout à fait extraordinaire. On dit qu'il écrivait, quand il faisait vraiment trop froid, il se mettait dans sa chaise à porteur pour écrire. C'est une légende, ça ?
Non, je pense que c'est vrai, de même que, vous savez, la façon, je le dis incidemment, la façon dont les gens, quand il faisait froid, écrivaient, des gens comme Bossuet par exemple, ils se mettaient dans un sac de peau d'ours. La façon dont les gens écrivaient, c'est amusant quand il fait froid. Comment on fait quand il fait froid ?
C'est ça, hein.
Il n'y avait pas le chauffage central.
Surtout qu'à l'époque, il y avait des rhumatismes,
mais bien
etc.,
sûr,
les
enjeux. Très humides. Oui. Comment on faisait ? Ils trouvaient tous des subterfuges.
Et il va noircir comme ça. Alors on parle des mémoires qui certes sont, comme vous l'avez dit, écrites très tard. Les mémoires sont écrites entre 1740 et 1750. Mais avant cela, il a probablement noirci les fameuses pages de tout le reste du fonds Saint-Simon qui a si longtemps été aux archives du ministère des Affaires étrangères. Un fonds Saint-Simon colossal, car les mémoires ne sont que la petite partie de tout ce qu'il a pu écrire. Et pourtant, une fois publié dans la Pléiade, c'est quoi ? C'est 8000 pages ?
À peu près. Oui, à peu près. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il commence par sa jeunesse, bon, c'est classique dans les mémoires, mais il s'arrête à la mort du régent, qui était son ami, le duc d'Orléans, le neveu Louis XIV, il s'arrête, conformément à un vœu qu'il s'était formé lui-même, et puis il cesse d'écrire ses mémoires. Il écrit à peu près plus rien d'ailleurs.
La biographie, non-biographie de Jean-Michel de la Comté à propos de Saint-Simon dans la collection L'un et l'autre chez Gallimard, cela s'intitule en toute simplicité La grandeur. Et dans un instant, nous en venons à ce que sont devenues les mémoires à travers les siècles, car il a fallu attendre un siècle pour pouvoir les lire véritablement.
Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Un récit sur Europe 1 consacré maintenant aux mémoires de Saint-Simon.
À la mort du duc de Saint-Simon, on est donc en mars 1755, ses mémoires, mais pas seulement ses mémoires, tous ses manuscrits, ce qui représente énormément, ça représente 162 gros portefeuilles de documents, c'était colossal. Tout ça est confié par testament à son cousin, l'évêque de Metz, et c'est placé à la suite de toute une affaire dont on parlera peut-être, une histoire de procès avec des débiteurs, c'est que tous ces grands aristocrates avaient des dettes un peu partout. C'est placé en dépôt chez un notaire, maître Delalleux, et l'ensemble de ce fonds Saint-Simon va rester à l'étude de Delalleux, comme ça, jusqu'en 1760. Et puis en 1760, alors là, coup de théâtre, par ordre du roi, un commis au secrétariat des affaires étrangères se présente à l'étude pour obtenir livraison, alors vous imaginez, il faut une grosse voiture, pour obtenir livraison de toutes ces archives qui sont transférées au ministère des Affaires étrangères. Alors comment est-ce que tout ça s'est fait ? Entre-temps, l'évêque est mort, c'est sa sœur, la maréchale de Montmorency, qui a hérité l'ensemble du fonds, et par une négociation avec Choiseul, elle a accepté que tout soit remis au roi. En échange, dit-on, elle a reçu un portrait du roi. C'était une petite compensation. Pourquoi est-ce qu'on transfère l'ensemble du fonds Saint-Simon aux archives des affaires étrangères ? Pour une raison officielle, c'est que Saint-Simon a été ambassadeur en Espagne. Il a joué un rôle politique important auprès du régent pendant la politique. polysynodie sous la régence, etc. Donc il est normal qu'il y ait des documents dans tout ce fond qui puissent intéresser l'État, qui ne doivent être communiqués, ça on peut le comprendre, mais il y a une raison plus réelle et plus profonde, c'est que le grand ministre Choiseul lui-même veut profiter des mémoires de Saint-Simon dont il a eu vent. Il va d'ailleurs se passionner lui-même pour ses mémoires, en faire lever une première copie, ce qu'on appelle la copie de Chanteloup, que viendront consulter un certain nombre de grands personnages du XVIIIe siècle. Hein, je pense à Madame du Deffand, par exemple, qui faisait ses d'indicibles plaisirs, dit-elle. Elle faisait son miel de ses mémoires de Saint-Simon. Alors, on va également autoriser un certain nombre de personnalités à aller visiter le fonds Saint-Simon aux archives des affaires étrangères. C'est le cas de l'abbé de Voisenon, qui est un des précepteurs des enfants de France, qui va lui aussi faire une copie des mémoires. Encore une fois, les mémoires ne sont qu'une partie de l'immense fonds Saint-Simon. Hein. Et puis, c'est le cas de Duclos, de Marmontel, enfin tous ceux qui connaissent bien le XVIIIe siècle savent à quel point ces érudits aimaient chercher à la source des anecdotes sur le règne à l'époque réputé si glorieux, le règne devenu mythique et légendaire de Louis XIV. C'est un autre érudit, assez connu, un éditeur par la même occasion, Soulavi, qui en 1786 seulement va publier trois volumes de ce qu'il appelle la Galerie de l'Ancienne Cour ou Mémoires et Anecdotes pour servir à l'histoire des règnes de Louis XIV et Louis XV. Alors c'est une espèce de salade d'anecdotes sur la cour de Louis XIV, les travaux de Soulavi. Et à l'intérieur, on trouve des extraits des mémoires de Saint-Simon. Tout ça est fait de façon évidemment très aléatoire. Il faut attendre, mais pas très longtemps, il faut attendre quelques mois encore pour qu'une édition tronquée, arrangée, soit publiée par le même Soulavi en 1789. Et puis, comme cette édition londonienne a beaucoup de succès, une autre voit le jour à Strasbourg en 1791. Mais pendant toute cette période, pendant la Révolution, pendant l'Empire, les mémoires demeurent la propriété de l'État et l'ensemble du fonds Saint-Simon se trouve toujours au ministère des Affaires étrangères. Et puis voilà que la famille de Saint-Simon réclame tous ces papiers. Et il se trouve que l'un des membres de la famille, le général de Saint-Simon, c'est un petit-neveu du mémorialiste, le général de Saint-Simon étant bien en cour auprès de Louis XVIII, il ose demander au roi restauré, on est là en 1817, il ose lui demander la grâce d'un prisonnier de la Bastille. Alors le roi dit un prisonnier de la Bastille, la Bastille n'existe plus depuis 1789 évidemment. Et le général de Saint-Simon lui dit « Oui, sire, vous maintenez détenus les écrits de mon grand-oncle. » Et ça fait rire Louis XVIII qui va promettre au général de lui restituer non pas l'ensemble du fonds Saint-Simon, mais les trois portefeuilles qui contiennent les fameux mémoires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces mémoires? Eh bien, c'est 172 cahiers de cette célèbre et élégante écriture manuscrite, assez illisible pour tout vous dire, de Saint-Simon, cette écriture un peu serrée comme ça. 2854 pages manuscrites qui vont faire partie bientôt des œuvres les plus célèbres de la littérature.
Sur Europe 1 de la bourrée de Cardenio de Delalande, Franck.
Alors, la première édition, à partir de cette remise par l'État aux héritiers, la première édition va paraître chez Sautelet en 1829, en 21 volumes. Il faut attendre... Alors, c'est ce manuscrit qui va également être utilisé par Cherwell. Ça, c'est la grande édition de 1856. Et puis, la plus célèbre édition, la plus importante, c'est la célèbre édition Boislille. Il y aura d'ailleurs plusieurs éditions Boislille. Disons clairement qu'il faut attendre le Second Empire et les années 1860 pour qu'on puisse vraiment bénéficier d'un texte fiable sur ces mémoires de Saint-Simon. Alors, le manuscrit lui-même, le manuscrit autographe, sera vendu par la famille en 1860 à l'imprimeur Lahure et lui-même le cédera à la librairie Hachette. Et c'est la librairie Hachette qui en a fait don à la Bibliothèque nationale en 1926, ce qui fait que les mémoires de Saint-Simon aujourd'hui, appartiennent à la Bibliothèque nationale de France. Alors, néanmoins, au Quai d'Orsay, reste... On a remis 11 portefeuilles à la famille de Saint-Simon du temps de Louis XVIII. Mais Au total, l'ensemble du fonds Saint-Simon, c'était 162 portefeuilles. Et bien entendu, tous les érudits vont se battre pour essayer d'y accéder, de voir ce qu'il y a là-dedans et d'aller y chercher un certain nombre d'éléments qui puissent compléter, faire des notes. Vous savez, c'est comme une sorte d'immense réseau étoilé, l'œuvre au sens le plus large de Saint-Simon. Et il faudra attendre l'autorisation du ministre Fraissinet le 18 février 1880 pour qu'enfin l'ensemble du fonds Saint-Simon soit mis à la disposition des érudits. Le paradoxe dans tout ça, c'est qu'évidemment, sur l'ensemble du fonds, on lit essentiellement les mémoires. Et comme je vous le disais, sur les mémoires, on lit essentiellement les portraits des grands seigneurs et des grandes dames de la cour de Louis XIV. C'est étrange quand même le destin de cette œuvre qui s'écrit très tard et qui est publiée encore plus tard, Jean-Michel de la Comté.
Oui, c'est un étrange destin. Alors, une question se pose d'ailleurs. Comment est-ce que, tant d'années après, lorsqu'il commence à écrire Saint-Simon, comment peut-il se souvenir avec une telle exactitude de ce qui s'est passé 20, 30, 40 ans avant?
Il avait pris des notes.
Peut-être.
On dit que l'exemple de Bassompierre, qui dans ses propres mémoires...
C'est ce qu'il dit lui-même.
Ouais, c'est ça.
Hein, c'est ce qu'il dit lui-même. Moi, j'ai une autre analyse, qui n'est pas contradictoire d'ailleurs. Je pense qu'il a pris des notes, on peut parfaitement le penser. Je pense qu'il y a une autre raison, qui m'est venue assez tardivement, en vérité, parce que c'est quand même hallucinant, la manière dont... Comme s'il photographiait ce qu'il avait vu, mais les conversations, il restitue tout ça. Soit il y a une part de fiction, soit ce que je crois maintenant, il était hypermnésique.
Eh oui, il avait peut-être...
Mémoire inouïe, comme il y a des gens qui se souviennent de tout 50 ans après.
Un côté un peu toc, si je puis dire, toc obsessionnel.
Absolument, prodigieux.
Alors, avec vous, parce que tout ça, c'était l'œuvre Jean-Michel de la Comté, mais maintenant, pour faire plaisir aux émules de Sainte-Beuve, nous allons parler de la vie du petit duc.
Et la figure de Saint-Simon plane cet après-midi sur Europe 1, Franck.
Ah oui, il n'était pas grand le duc de Saint-Simon, mais il nous domine tous par l'immensité de son œuvre. Alors, il faut raconter un peu d'où il venait, comment il était. D'abord, c'est un très grand seigneur hein, quand même. Il est duc de Saint-Simon, enfin il va devenir duc de Saint-Simon. Au départ, il est vidame de Chartres. Mais il est fils unique d'un des favoris de Louis XIII.
Oui, c'est tout à fait essentiel pour comprendre la mentalité de Saint-Simon, ça. Son père a été nommé, en quelque sorte, duc et pair par Louis XIII, à la moitié du... Enfin, dans la première partie du XVIIe siècle. Et ça va être extraordinairement important pour le fils unique. Parce que quand le père de Saint-Simon... enfin, devient père, donc, en quelque sorte...
Père de France, père
ailleurs,
oui.
Hein, père ailleurs, et père aussi, d'ailleurs, papa.
Oui.
Hein, c'est un vieux... Enfin, pour l'époque, c'est un vieux monsieur. Et il meurt assez vite. Donc, son fils conservera, d'ailleurs, une assez longue et forte nostalgie de son père.
Il a 18 ans, hein,
oui,
Saint-Simon a 18 ans quand son
c'est
père
ça.
Meurt. On raconte que la faveur du père de Saint-Simon était due à... Il avait eu une invention incroyable pour permettre au roi de changer facilement de cheval.
Exactement, c'est ce qu'on dit.
Oui.
Hein, c'est ce qu'on dit. C'était un courtisan d'élite, le père, très fidèle au roi Louis XIII, auquel il vouait un culte que son fils Saint-Simon lui-même va vouer à son tour. Hein.
On l'a vu au moment de la journée des dupes en 1630,
tout
il jouait un rôle important.
Absolument. Et donc c'est très important parce que le fils orphelin, la mère est beaucoup plus jeune. Soyez en passant, le père il a 68 ans quand il épouse la mère de Saint-Simon, qui en a 32,
oui.
Ce qui est déjà assez âgé hein, pour l'époque. Bon, dirait-il que le fils va vouer une grande admiration pour son père, un très grand respect. Et comme c'est il est de très haute noblesse, mais depuis assez peu de temps finalement,
c'est tout frais.
Ça,
oui,
c'est tout frais. Oui. Et ben il va s'acharner toute sa vie, bien sûr, à conserver les prérogatives de ce rang extraordinaire. Pour quelqu'un qui était d'une noblesse importante, mais secondaire au moment...
Et malheureusement pour lui, il n'est pas né à la bonne époque. Il serait né sous Henri II ou Henri III, ça irait encore.
Voilà.
Mais là, sous Louis XIV, c'est vrai que les rangs, les titres, etc., ça commence à se diluer un peu. Comme les rangs, les honneurs et les distinctions sont peu à peu tombés en pillage en France, dit-il. Ainsi, on fait les noms, les armes, les maisons, sente au sens de ce greffe, qui veut et qui peut. De cela, nulle justice, le seul parti est le mépris. Et de laisser faire. Il est vraiment outré. Hein, tout ça.
Oui, il est outré, mais il faut bien. Alors, il y a quelque chose d'amusant chez pour nous, pour Saint-Simon. Je vais risquer une idée qui vous scandalisera peut-être, mais c'est un fieffé réactionnaire.
Ah oui, vraiment.
Mais peut-être que les très grands écrivains doivent l'être.
Peut-être, oui.
Peut-être pas tous, mais ça joue. C'est-à-dire qu'il y a une...
Ça active la nostalgie.
La nostalgie, un rapport à la langue très particulier, une dilatation même du style qu'on trouve chez lui, qui est une dilatation du moi, de l'ego, mais aussi des temps passés. Vous voyez, ça remonte, pour Saint-Simon, ça remonte à des siècles en arrière, il est plein de ça. Et sa langue et son œuvre sont pleine de ça. C'est ça, Saint-Simon.
Il voudrait voir la noblesse retrouver les privilèges qui étaient les siens du temps de la féodalité.
Mais oui,
en fait,
mais oui. Pour une raison d'ailleurs assez simple à comprendre aujourd'hui, et même à l'époque du reste. Louis XIV, vous l'avez souligné tout à l'heure, on sait bien à Versailles, la cage dorée pour la noblesse.
On domestique la noblesse.
Voilà, exactement. Eh bien, Saint-Simon, lui, considère, à juste titre d'ailleurs, que dans l'histoire, un duc et pair, c'est un conseiller du prince, et ce n'est pas quelqu'un à qui on donne des pensions pour le museler. Donc ça le scandalise. Et ça donne justement cette rancœur, cette amertume, cette rage parfois, et aussi cette célébration du temps passé.
Vous avez dit qu'il était réactionnaire, on peut dire, politiquement. Il est aussi très religieux. Hein,
très religieux.
Pas oublier cet aspect-là qui passe souvent un peu inaperçu.
Vous avez tout à fait raison, c'est fondamental. L'affaire Tividam n'est pas très loin de l'abbaye de la Trappe. Alors, je vous passe les détails, mais ce sont des lieux qui sont imprégnés de spiritualité. Et lui, Saint-Simon, est imprégné de Dieu.
Oui.
Profondément.
Et il est, sa deuxième religion, si l'on peut dire, c'est la langue,
oui.
C'est le texte, c'est un très grand, parce qu'il a, c'est un grand écrivain, ça, je crois que tout le monde l'a compris, mais c'est un très grand lecteur.
Absolument. Et de mémoire, entre autres. Mmh. Ah, je dis entre autres, j'ai tort. Prioritairement de mémoire. Et très tôt, vous savez qu'il a commencé à écrire ses mémoires à 20 ans. C'est quand même fou. À 20 ans, il dit à l'abbé de Rancé, celui le réformateur de la Trappe, hein, qu'il connaissait par son père, enfin, auquel il voue un culte aussi. Il envoie une lettre. Est-ce que j'ai le droit d'écrire des mémoires? Est-ce que c'est charitable? Parce que je vais dire du mal. Il va les écrire réellement seulement 45 ans plus tard. C'est quand même étonnant.
Alors, si Saint-Simon est entré à la cour, c'est quand même en grande partie grâce à sa femme. Cette femme a été le grand amour de sa vie. Et au milieu de tant d'aigreurs, ça va nous faire du bien de parler d'un peu de douceur dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Un extrait de Rigaudon sur Europe 1, Franck, de Michel Richard de Lalande.
Il faudrait qu'on trouve un terme pour désigner un très petit extrait.
Oui, plein d'extraits à ce niveau-là, quelques notes.
On est dans l'esprit. Alors, à Versailles, pour résider au château, même temporairement, il fallait bénéficier d'une haute charge, ce qu'on appelait un grand office de cour. Ce n'était pas le cas de Saint-Simon, mais c'était le cas de sa femme, qui était dame d'honneur de la duchesse de Berry, l'un des petits-fils du roi. Et évidemment, cette femme, c'est la grande histoire de sa vie, Jean-Michel de la Comté.
Oui, c'est l'histoire d'un amour ardent, enfin en tout cas pour ce qu'on peut en connaître, et très fidèle. On se figure souvent qu'à Versailles, bon, il y a un côté tripot, mais enfin, on se figure souvent qu'il n'y avait pas d'amour parce que les mariages arrangés ne pouvaient pas déboucher sur l'amour.
Mais la preuve que si.
C'est absolument une erreur de penser. On peut arranger un mariage et ça donne de très belles amours. Hein. Il en est la preuve vivante, lui. Il a connu sa femme très tôt. Enfin, ils avaient 18-20 ans, quoi, comme souvent à l'époque. Et ça a été un amour sans ombre. Une femme à qui il confiait tout. Et ils ont été, soit dit en passant, enterrés lorsqu'elle est morte prématurément, sans doute de la grippe. Ils ont été enterrés tous les deux dans le château, dans le caveau de la Ferté-Vidame, de telle manière que on ne puisse pas...
Les deux cercueils scellés l'un à l'autre.
Scellés, hein, absolument.
De comme sorte, cœur, disait-il, dans son testament, il voulait que les cercueils soient scellés, de sorte qu'on ne puisse pas les détacher sans les briser l'un et
absolument.
L'autre.
Absolument. Et malheureusement, ça a été saccagé ensuite.
Jean-Michel de la Comté, La Grandeur, cette biographie de Saint-Simon dans la collection L'un et l'autre chez Gallimard, c'est, si j'en crois Éric Mention Rigaud, et je souscris parfaitement à son jugement, un petit bijou d'intelligence et d'écriture. Éric Mention Rigaud est le président du jury qui vous a remis ce prix Historia de la biographie. Et nous avons en ligne le directeur, le grand patron, j'allais dire le grand Manitou pour rester dans l'image d'hier, d'Historia. Bonjour Pierre Baron.
Bonjour, mais je m'empresse de enterrer le calumet de la paix.
J'espère bien. Alors, vous avez une riche idée en multipliant les prix Historia cette année.
Oui, enfin j'espère que c'est une riche idée. En tout cas, ce qu'on a voulu montrer, c'était la richesse de la curiosité d'une certaine manière. Il n'y a pas d'arrogance là-dedans, c'est notre tempérament naturel qui voulait que l'histoire, eh ben, c'est protéiforme au bon sens du terme. L'histoire, ce n'est pas que des livres, si c'est beaucoup de livres. Nous en avions déjà 5 de prix d'historien,
oui.
Mais c'est aussi du numérique, c'est aussi des web documentaires.
Voilà, alors on a reçu d'ailleurs le lauréat, là, oui.
Donc, ces prix, si vous voulez, Franck, ça témoigne pour nous d'une curiosité qui est qui est à l'image de ce qu'est l'histoire. L'histoire est passionnante, y compris quand elle est dans un bon jeu vidéo, dans un bon film, dans un documentaire DVD pour des enfants, qu'on fait à notre lauréat du prix Livre Jeunesse cette année. C'est une manière pour nous de témoigner, dans une belle exposition aussi. C'est aussi une manière de montrer que l'histoire est partout et qu'elle peut, par toutes ses formes, passionner le grand public.
Exactement.
Voilà. Bien évidemment pas la BD, puisque la bande dessinée était un prix traditionnel d'Historia, oui. Même si cette année, ça a été le prix spécial en plus.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez bien sûr le prix Historia de la bande dessinée, on en parlera demain après-midi, et puis, ici, sur cette antenne, et puis vous avez décerné le prix spécial du jury à également un ouvrage graphique, quasiment de bande dessinée, hein, qui
Absolument.
S'appelle Carnet d'Orient, on en parlera
Tout
aussi.
Tout à fait, ouais. Avec une entrée remarquée pour nous, et remarquable, enfin... ravi, et comme dirait, on a la faiblesse de le partager, d'un magnifique travail de cet auteur par rapport à des événements qui restent encore extrêmement sensibles, mais cette entrée de l'histoire dans la BD nous a paru vraiment formidable et à signaler au grand public.
Merci beaucoup Pierre Baron, vous êtes
Merci
le directeur de la rédaction du magazine Historia. Il y a un aspect, Jean-Michel de la Comté, dont on n'a pas parlé concernant Saint-Simon, c'est quand même son rôle politique, car là aussi, très tard, après la mort de Louis XIV, comme il est proche du neveu du roi, le Philippe d'Orléans, qui va devenir le régent, il va jouer un véritable rôle politique.
Oui, il va jouer un rôle de conseiller. Lui-même, d'ailleurs, a imaginé un type de gouvernement. C'était une tête politique, Saint-Simon. C'est pas seulement un immense écrivain, c'est une tête politique, frustrée certes. Mais enfin, il a imaginé un modèle de gouvernement, de conseils, de ministères, comme ça, qui seraient de nouveau occupés par la très haute noblesse, puisque Louis XIV avait exclu la très haute noblesse du gouvernement. Et il va jouer un rôle, notamment dans le, enfin, principalement d'ailleurs dans le domaine diplomatique, pour lui dire d'un mot, alors que Louis XV va mettre en place ou favoriser l'alliance franco-anglaise, lui, Saint-Simon, est favorable aux Espagnols. Et il va faire une expérience d'ambassadeur qui va complètement le ruiner, d'ailleurs,
oui,
complètement à sec.
Il l'amène sur un grand pied.
Grand pied. C'est aussi l'image qu'il veut donner de la France, la grandeur.
Et alors, il lui manquait ça à sa panoplie de titres et de décorations. Il devient grand d'Espagne.
Oui.
Pour lui, c'est important. D'ailleurs, j'aimerais qu'on finisse sur une note un peu triviale peut-être, mais assez drôle, et qui va vous montrer qu'il y a de tout dans les mémoires de Saint-Simon. Il raconte, alors que devenu grand d'Espagne, il vient faire ses adieux à la princesse des Asturies, car il est rappelé à Paris par le gouvernement du régent. Il entre dans la chambre donc de la princesse des Asturies. Elle me regarda et me lâcha un rot à faire retentir la chambre, dit-il. Ma surprise fut telle que je demeurai confondu. Un second partit aussi bruyant que le premier. J'en perdis contenance et tout moyen de m'empêcher de rire. Et un troisième, plus fort encore que les deux premiers, et qui mit tous les assistants en désarroi et moi-même en fuite. Il y a de l'humour chez Saint-Simon, pas l'oublier.
Il y a beaucoup d'humour. On rit. On rit.
On rit de ses vacheries, on rit de ce qui arrive.
On rit de tout, on rit de sa tendresse, on rit de tendresse, et on rit de sa cruauté, on rit de cette extraordinaire diversité. Voilà, c'est
finalement,
ça.
S'il y a de tout chez Saint-Simon, et s'il y a du rire, et s'il y a de la tendresse, c'est parce qu'il y a, comme enfermé dans les mailles d'un extraordinaire filet littéraire, il y a de la vie, tout simplement.
Ça, c'est...
Et ça, c'est ce que vous avez démontré, Jean-Michel de la Comté, donc chez Gallimard. Vous avez appelé ça La Grandeur. C'est sous-titré Saint-Simon, c'est le principe même de la collection. Mais je trouve que ce qui n'est pas mal, c'est de lire le titre dans un seul mouvement. On pourrait dire La Grandeur Saint-Simon.
Mais c'est ça le titre.